Vous avez... Ah ben voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci. Merci pour votre présence en ce troisième et dernier jour de salon. Il y a un adage qui dit « Qui veut voyager loin ménage sa monture ». Ça tombe bien, nous allons parler de végétal et d'animal tous ensemble. Avec ce thème « Animal et végétal, quand le vivant humanise la ville ». Tiens, tiens. Qu'est-ce que ça recouvre ? Tout un programme. Et pour en parler, je ne dirais pas, attention, l'animal, mais nous avons autour de nous trois intervenants et je vous prie toutes et tous de nous excuser par avance car ce panel, et j'en suis responsable, ne respecte pas l'engagement de parité auquel nous nous soumettons avec bonheur d'ordinaire. Donc, mesdames, nous corrigerons par une table ronde 100% féminine dans un prochain événement. Plus sérieusement, à votre droite, nous sommes très heureux d'accueillir Damien Hédin. Damien, vous êtes le secrétaire général de la Fédération française d'éco-pâturage et d'éco-pastoralisme. Vous nous en direz un petit mot tout à l'heure. À votre gauche, Quentin Lefaucheux, vice-président de l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage. Et juste à mes côtés, merci beaucoup, monsieur Olivier Thibault, directeur général de l'Office français de la biodiversité. Alors, on va démarrer cet échange autour de ce thème. Vous l'imaginez bien, nous sommes ici au Salon de la biodiversité et du génie écologique. Pourquoi parler d'animal et de végétal en tant que facteur d'humanisation, si je puis dire, des villes. Ça peut sembler un peu bizarre de l'évoquer comme ceci, eh bien parce que on évoque souvent la biodiversité en dehors des villes. De plus en plus, avec une approche liée aux services écosystémiques, on aborde aussi les environnements anthropisés. On parle beaucoup de nature en ville et on s'intéresse très souvent à une petite partie du vivant, déjà celle qui est visible, et l'emblème le plus visible et le plus immobile qui est le végétal. Mais on parle un peu des insectes, un peu des oiseaux, mais ça reste assez superficiel et ça n'est pas une critique. Et on voit qu'il y a un rapport quand même très important entre la nature et les êtres humains. Nous en faisons partie. Et c'est justement ce thème qu'on voulait travailler aujourd'hui tous ensemble, en parlant du sauvage, du domestiqué, de l'aménagement, puisque nous sommes ici au cœur du salon des maires et des collectivités locales, mais aussi de la gestion du quotidien, comment est-ce qu'on peut transformer ce quotidien et de notre relation, nous les êtres humains, l'espèce Homo sapiens sapiens, avec les autres qu'on voit ou qu'on ne voit pas, pour finalement faire de cette nature un facteur de bien-être. Et le bien-être n'est rien d'autre que le préalable à la santé. Alors quand on a dit ça, on a balayé le sujet de manière très rapide. Et pour en parler plus en détail, je vais d'abord m'adresser à Damien Hédin. Mais oui, ça c'est fait, nous ne la ferons pas à nouveau. Damien, qu'est-ce que c'est que l'éco-pâturage? En quelques mots, pour qu'on comprenne bien cette discipline qui est un peu aux confins de l'élevage, mais aussi et surtout de la gestion écologique.
Merci Pierre. Effectivement, on va essayer de le définir en quelques mots. Peut-être que le mot principal, c'est hybride, en fait, parce que c'est une solution totalement hybride entre la gestion du paysage, en effet, l'élevage, puisqu'effectivement, il s'agit d'animaux domestiques, principalement des ruminants, donc la plupart du temps des moutons, des chèvres ou des vaches, et puis aussi hybride, parce qu'au milieu de tout ça, il y a des vrais enjeux écologiques. Donc c'est une solution hybride entre l'élevage, le paysage et l'écologie. Ça tombe bien, c'est des mondes qui ont besoin de se parler. Donc on a l'occasion, nous, de les réunir autour de la même table régulièrement. Cette solution, elle est pleine de bon sens. Elle consiste à confier la gestion écologique des espaces vers naturel, semi-naturel, et y compris en milieu urbain, en effet, à des herbivores. Et donc, évidemment, dans le cadre de prestations de services avec des professionnels qui encadrent et qui conduisent ces troupeaux, parce que c'est un vrai métier et ça ne s'invente pas. Voilà ce que c'est que l'éco-pâturage aujourd'hui.
Alors, c'est un vrai métier et la fédération, en quelques, à grands traits, elle les réunit, elle les fédère, elle structure leur action, elle la rend visible.
C'est ça, la fédération a pour objectif d'être la première organisation professionnelle de cette solution émergente de gestion de l'espace vert. C'est assez récent. Il y a une vingtaine d'années, on a eu les premiers programmes d'éco-pâturage. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est de plus en plus plébiscité, notamment par les collectivités territoriales. Et donc, effectivement, il y avait besoin d'avoir une organisation qui parle au nom de tous ces acteurs et qui essaie de les fédérer autour de valeurs communes. C'est ce que nous essayons de faire depuis maintenant 5 ans.
Alors, je vais volontairement prendre un slogan qui a beaucoup irrité à juste titre, les professionnels que vous êtes et l'ensemble de l'écosystème professionnel de la gestion de la nature en ville. Donc, ce sont des moutons tondeuses. C'est-à-dire que si on veut faire de la gestion écologique, on met des moutons partout et on sait pertinemment qu'on va préserver la biodiversité de cette façon-là et qu'on n'a plus besoin de tondeuses thermiques ou même électriques. C'est ça, en fait. C'est juste ça, l'éco-pâturage.
C'est à peu près le contraire, globalement. Non, bien sûr, Pierre, l'idée, c'est de... Alors, on comprend très bien que la formule en termes de communication ou de marketing puisse être choisie. Cette facilité peut avoir des limites, notamment parce qu'il est assez inquiétant de réduire le mouton à un engin de jardinage. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, surtout, c'est que si on le réduit à un engin de jardinage, on ne voit pas la finalité de tout ça. Et pour le coup, il y a des plus-values. On l'a dit, il y a une plus-value dans la gestion du paysage. Il y a une plus-value en termes de biodiversité, à la condition quand même que tout ça se soit bien conduit et bien encadré. Il y a une plus-value en termes d'élevage, parce que c'est un complément d'activité parfois pour certains éleveurs, parce qu'on préserve des races patrimoniales menacées. On parlait de biodiversité, mais il y a la biodiversité sauvage et il y a la biodiversité domestique menacée également. Et puis le dernier enjeu, celui qui nous rassemble aussi ce matin, c'est l'enjeu social, c'est l'enjeu citoyen qu'il y a derrière tout ça, puisqu'évidemment cet animal, il a un rôle à jouer dans le vivre ensemble.
Donc ça, c'est très important. On a évidemment des plans de gestion. On ne va pas mobiliser tous les ruminants à toutes les périodes de l'année et pour tous les types de gestion. Parce que
oui,
une pâture avec une vache Highland ou une bretonne pinoire, qui est, je crois, sur votre affiche de la fédération, dont on retrouve le stand à quelques mètres d'ici, n'a pas les mêmes propriétés, ne va pas paître de la même manière qu'un mouton solonio ou de tout autre caprin que vous élevez également.
C'est ça. Alors, évidemment, on choisit... tout ça, ça nécessite une petite expertise en amont, mais pas des moutons pour mettre des moutons. C'est bien plus complexe que cela. Et effectivement, ça peut être en fonction des sites, en fonction de la végétation, de la surface, de tous les enjeux qu'on peut imaginer. On peut choisir, effectivement, d'avoir recours à des moutons, des vaches, des chèvres, parfois même à des troupeaux mixtes, puisqu'il y a des enjeux, peut-être par exemple, de lutte contre des envahissantes ou autres. Donc effectivement, c'est une solution qui s'adapte, c'est une solution qui doit être encadrée, et tout ça, ça doit se préparer en amont avec de la réflexion et de l'expertise.
Là, on est sur la partie technique, et effectivement, vous l'avez dit, on est à mi-chemin entre l'élevage et la gestion écologique, mais on a aussi une interaction entre les êtres humains, notamment dans les milieux urbains, et l'animal. Est-ce que ça permet d'avoir un regard différent? Qu'est-ce que ça incarne? Et comment est-ce que vous le faites vivre?
Alors moi, j'ai pour coutume de dire que nos troupeaux, en tout cas les animaux, sont les très bons ambassadeurs pour les thématiques de gestion écologique du paysage. Là, on a une bonne entrée pour parfois aborder d'ailleurs d'autres sujets plus complexes, plus exigeants. Mais l'éco-pâturage, ça permet... C'est une solution parmi tant d'autres, d'ailleurs, de l'aéropage de solutions qu'on appelle communément la gestion différenciée. Hein, mais ça permet d'aborder ce sujet-là, qui est parfois incompris des citoyens, pas les élus ou les fonctionnaires territoriaux qui sont dans la salle qui me contrediront. C'est pas toujours facile pour le citoyen d'appréhender ces solutions de gestion différenciée. Et l'éco-pâturage, là, pour le coup, va être une solution... Simplement parce qu'il n'y a pas que les chatons qui ont du succès sur Internet. Concrètement, les animaux, ils ont du succès de manière générale et ils créent ce lien. Alors l'animal domestique, il nous permet... On dit les animaux domestiques sont en ville, ça paraît saugrenu. Enfin, il faut quand même se dire qu'il y a une cinquantaine d'années, il y avait des troupeaux ici, porte de Versailles. Ça n'avait rien d'anormal, en fait. C'est assez récent, finalement, le départ des animaux de ferme des villes. Aujourd'hui, leur retour se fait avec une volonté peut-être un peu plus pédagogique, un peu plus de sensibilisation. C'est une bonne entrée, en tout cas, pour passer les messages de gestion écologique. Et alors après, ces animaux ont évidemment d'autres vertus. On s'aperçoit qu'un lien un peu spontanément se crée avec les habitants des villes, notamment dans les quartiers de politique de la ville. Il y a beaucoup de succès. Il y a des programmes qui sont assez impressionnants en termes de lien social et de... Allez, on va faire des formules un peu pompeuses, mais je pense qu'on participe vraiment à réinventer ce vivre ensemble et améliorer en tout cas le vivre ensemble dont on a tous besoin que ça s'améliore un peu.
Oui, en effet, on a plutôt besoin de liens que d'opposition. On va y revenir. Vous avez cité ce lien entre l'agriculture et la transition écologique. Ça tombe bien, Olivier Thibault, vous avez cette double tutelle ministérielle et l'Office français de la biodiversité est aux côtés des collectivités pour... les doter d'outils pour mieux gérer la biodiversité, évidemment préserver les grands ensembles naturels, mais aussi mieux connaître près de chez soi, dans sa ville, dans sa commune, quelle que soit sa taille, sa biodiversité, avec un certain nombre de parties prenantes pour mieux la gérer en interaction avec les habitants. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce rôle fondamental de l'OFB, peut-être en partant de cette similitude avec l'éco-pâturage, de faire le lien entre... deux mondes et aussi une passerelle entre le sauvage et le domestiqué.
Merci Pierre, bonjour à tous. Alors, moi je suis ravi d'intervenir ici. Alors, je vais parler un peu de l'OFB, mais ce que je voudrais dire en premier lieu, j'aime bien l'image, hein, quand on part du mouton tondeuse et en fait on veut parler d'aménagement du territoire. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est comment on fait ensemble zoom arrière. On part d'une entrée et on parle derrière de ce qu'on a envie pour son territoire. Parce que l'objectif, c'est bien d'avoir un territoire dans lequel il fait bon vivre, un territoire durable, un territoire résilient, un territoire qui va s'adapter au changement climatique. Et c'est ça qui doit nous intéresser. Et si on réfléchit un peu, l'animal et le végétal, ils font partie totalement intégrante de ce territoire, de ce paysage, alors qu'on l'a oublié. Hein. Je suis frappé tous les jours de voir à quel point... Dans notre inconscient collectif, on pense que la ville, c'est la victoire de l'homme contre la nature. Une bonne ville, c'est une ville où il n'y a plus de nature, où on la cache. Alors que si on réfléchit, c'est quoi son paysage? Ce n'est pas l'UNEP que je vais le dire, hein, mais le paysage, ce n'est pas juste des images figées, ce n'est pas des trucs morts qui constituent notre cadre de vie, c'est en fait plein de choses vivantes. Et des choses vivantes qui, pour qu'elles restent et subsistent dans le temps, ont besoin de nature et ont besoin d'équilibre. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire à l'OFB, c'est-à-dire arrêter d'opposer l'homme avec la nature. D'ailleurs, on parle un peu moins de nature, on parle de plus en plus de vivant. Et dans le vivant, la biodiversité, le vivant, donc on a des sujets de vocabulaire. Mais derrière, c'est ce qui va nous permettre de protéger nos terroirs, nos territoires, nos paysages. Et donc il faut le prendre comme ça. On fait un petit peu ce zoom arrière et on réfléchit comment on vit avec la nature et pas contre la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et bon, l'éco-pâturage, par exemple, c'est un moyen de réapprendre à intégrer l'animal dans notre cadre de vie. Et derrière, une fois qu'on a le bout de la pelote de laine, on peut le tirer et on va trouver plein de choses qui vont permettre de réfléchir différemment son aménagement du territoire et de reconstruire un truc où on sera fier de ce qu'on va léguer à nos enfants, pour faire court et simple. Alors nous, on a notre jargon, hein, on appelle ça les solutions fondées sur la nature. Et c'est un peu comme la gestion différenciée, ça parle super bien aux experts. Dès qu'on a quelqu'un qui découvre, il ne comprend pas tout de suite. Et donc il faut faire attention à bien expliquer ce qu'il y a derrière. Alors, ce qu'on fait à l'Office français de la biodiversité, hein, on a trois grandes missions, connaître, accompagner et protéger. Tout ça, ça commence forcément par de la connaissance, c'est-à-dire comment comprendre ce qu'on a dans nos territoires. Pour les collectivités, on a un super outil pour ça, ça s'appelle l'Atlas de la biodiversité communale. Ça part au départ d'un inventaire. Qu'est-ce qu'on a comme biodiversité dans sa commune, dans ses bords de ville, dans ses milieux ruraux, dans sa forêt, dans son parc, etc. Ça permet de prendre conscience de tout ce qu'il y a. Et même dans les villes les plus urbanisées de France, on trouve plein de choses hyper intéressantes. Ça permet ensuite de redécouvrir cette nature, d'en être fier. Et une fois qu'on en est fier, on va trouver des moyens de la valoriser, de la faire grandir et d'aménager. Et derrière, c'est un très bel outil d'aménagement du territoire. Et quand on refait son PLU, son PLUI, ben derrière, on va réfléchir autrement et on va se reposer des questions. Comment je fais ma coulée verte? Comment j'entretiens de façon différenciée? Est-ce que j'ai besoin de couper l'herbe au ras tout le temps, partout? La réponse est plutôt non. Hein. Et comment on va utiliser, par exemple, des animaux divers et variés? Donc ça, c'est l'ABC. Derrière, on a des outils qui vont un peu plus loin, les territoires engagés pour la nature. Voilà. Deuxième outil sur lequel on compte beaucoup, les aires éducatives. Parce qu'il faut partir de la connaissance, mais cette connaissance et cette façon d'aborder son environnement, bah plus on commence jeune, mieux ça se passe. Et quand on travaille avec les élèves, les enfants, alors les aires éducatives, le concept il est simple, on leur emmène dans un petit bout de territoire de la commune, un morceau, alors une plage, un morceau de rivière, le parc, un morceau de la forêt. On emmène les enfants dans ce petit territoire, on leur fait faire eux-mêmes l'inventaire de tout ce qu'ils voient, et on va leur proposer de gérer ce petit morceau de territoire. C'est là que le drame commence, hein, parce qu'on se rend compte qu'il faut un peu d'argent, qu'il faut convaincre les voisins, que tout le monde n'est pas forcément d'accord, tout le monde n'a pas la même vision de ce qu'est un beau territoire. Et derrière, ça prend de la gestion, de la gouvernance, compréhension des mécanismes de marché, etc. Et puis aussi, ça permet de discuter avec sa mairie, avec ses parents. Et en général, quand on commence à convaincre les enfants, on a déjà à moitié convaincu les parents derrière qui viennent poser tout un tas de questions. Donc ça, c'est des outils qui marchent très bien et sur lesquels il faut avancer. Puis après, on a, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, tout un tas de guides, de référentiels, de plaquettes. Venez voir sur nos sites internet, demandez à nos équipes, il y en a qui sont là. Et vous aurez des moyens d'aller plus loin, de creuser, de répondre à toutes vos questions. J'en profite pour dire qu'on est en train de préparer un MOOC sur comment ça s'appelle, les solutions fondées sur la nature. Il est en train d'être tourné, il sera bientôt disponible. Et là aussi, ça permet aux techniciens, aux élus de comprendre comment aménager tout ça. Voilà.
Donc des outils nombreux. Non, vous pouvez poursuivre, Olivier. Solutions fondées sur la nature, pour faire très simple, Freddy Ray, qui est à l'INRAE et à l'Union internationale pour la conservation de la nature, le définit assez simplement. On a travaillé avec lui tout récemment, on présentera un petit document tout à l'heure, la logique de co-bénéfice, c'est-à-dire que je protège la biodiversité pour elle-même et je vise à avoir aussi un impact pour mon territoire vis-à-vis d'un de ces enjeux, qui peut être un enjeu d'infiltration des eaux, climatique, en ayant toujours ces deux pieds en tête, pas l'un sans l'autre. Et au fond, ça résume un peu, même si ça peut sembler théorique, l'approche que vous avez évoquée de ne pas opposer l'espace de vie de l'espèce humaine, qu'est la ville, qui est aussi un organisme vivant qui se recompose sur lui-même, qui a des flux. Il y a de plus en plus d'utilisation parfois galvaudée du mot écosystème, mais une ville en soi est aussi un système. Et puis, la nature, qui peut sembler un décor un peu lointain, et effectivement, ces réflexions sur le vivant, parce que ce qui nous distingue du reste de notre planète, c'est que nous, les animaux, les végétaux, les micro-organismes, sommes vivants. Ce grand mystère qui agite beaucoup les penseurs et les scientifiques. Ce mot vivant est peut-être plus englobant. Les scientifiques, ça leur parle beaucoup, les sciences du vivant. Et c'est vrai que c'est au cœur du débat. Il y a un article tout récent, il y a une quinzaine de jours, de The Conversation, donc plutôt aux médias grand public, qui a mis au jour ces débats de scientifiques. Et on va voir si ça se transcrit dans les médias grand public. Je signale une petite étude qui commence à être ancienne, qui était sortie en 2018. Il y avait eu une comparaison des occurrences dans les médias grand public anglo-saxons, en langue anglaise en tout cas, entre le corpus changement climatique et biodiversité. Il y avait une présence dans les médias du climat jusqu'à 10 fois plus importante que la biodiversité. Ce serait intéressant de voir si ça a bougé. Et puis demain, dans ce corpus, de voir aussi si le mot vivant fait une percée en effet, parce qu'il est, il est peut-être plus englobant. Vous l'avez dit, il y a l'OFB, il y a les communes, et puis il y a aussi des partenaires avec lesquels vous travaillez. La transition est un peu facile, dont l'UNEP. Qu'est-ce que vous faites avec les entreprises du paysage avant d'entendre Quentin, qui va présenter une vision de jardinier paysagiste?
Bon. Alors, d'abord, je voudrais juste réagir sur climat, adaptation, oui. Enfin, et puis biodiversité. Nous, ce qu'on voit, hein, c'est une vraie évolution dans la prise de conscience. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort et qu'on peut partager. Il y a 15 ans, on parlait beaucoup d'atténuation au changement climatique, très peu d'adaptation et très peu de biodiversité. On voit qu'aujourd'hui, bon, d'abord, le changement climatique, ça devient une réelle réalité, et pas uniquement à l'autre bout du monde, mais aussi chez nous tout de suite. Hein. Et donc, on parle d'adaptation. Et quand on parle d'adaptation, on parle de biodiversité. Et donc, cette prise de conscience, elle est très forte. On a un avantage avec la biodiversité sur tout ce qui se fait sur le changement climatique, c'est que la renaturation et la restauration, ça se voit. J'arrive à ma transition sur l'UNEP. Hein. Non, mais parce que c'est hyper important. Quand on fait de l'atténuation au changement climatique, on gagne plein de tonnes carbone. À la fois, on fait plein de choses et on peut faire du rapportage, mais ce n'est pas très concret dans la vie de tous les jours. Une voiture décarbonée par rapport à une voiture pas décarbonée, bon, on ne voit pas complètement tout de suite, à part le fait que ça fait moins de bruit, ce qui a changé. Alors que quand on commence à restaurer son cadre de vie, il y a des phases transitoires qui sont compliquées, ça, il faut qu'on en parle. Parce que si on ne sait pas l'accompagner et l'expliquer, on a des problèmes avec ses concitoyens, ses usagers. Mais derrière, ça se voit très vite. En 2-3 ans, on a des résultats. Et là, derrière, on a plusieurs façons d'approcher les choses. Nous, on ne les oppose pas. Il faut à la fois s'adapter à son public. Ça, ça veut dire faire évoluer son vocabulaire. Hein. Et nous, c'est un vrai sujet sur lequel on travaille en ce moment. À l'OFB, on a envie, et notre solution de simplicité, c'est de parler aux experts. Les super experts de la biodive, on leur peut leur parler de toutes les petites bêtes, petites fleurs, les espèces en danger, etc. Ça ne parle pas aux grands citoyens. Alors que quand on parle de cadre de vie, de paysage, de terroir, ça, ça parle à d'autres. Et c'est la même chose qu'il y a derrière. Et une approche alors qui peut paraître parfois utilitariste, mais si ça permet d'ouvrir les portes, de faire prendre conscience, moi, je ne suis pas contre. Même si, évidemment, il ne faut pas réduire la nature à juste une histoire d'utilitariste. Hein. La nature, ça nous permet d'avoir de l'eau potable, de l'air respirable, des aliments de qualité, mais ce n'est pas que ça non plus. Mais si déjà les gens se rendent compte que si vous voulez de l'eau potable, il ne faut pas trop la polluer, bon, ce n'est pas perdu, mais derrière, il faut aller plus loin. Et de ce point de vue-là, l'approche paysagère, elle permet d'ouvrir des portes, elle permet de sensibiliser, elle permet de se faire poser des bonnes questions. Et c'est pour ça qu'on travaille notamment avec l'UNEP. On a fait des très belles opérations cet été, ensemble oui. D'ailleurs, hein, sur les toits de Paris, pour montrer qu'il ne faut pas opposer la nature et l'homme, que même dans des endroits en plein cœur de Paris, on a des choses super qu'on peut faire. Évidemment, il faut s'adapter, il faut des outils un peu différents, il faut savoir à qui on va parler. Mais cette approche paysagère, elle est essentielle. Donc, on a une très belle convention avec l'UNEP et qu'on fait vivre et qui permet là encore de faire un petit pas de côté pour parler de la même chose. Et derrière, au fond, c'est comment on garde une terre habitable pour l'homme dans le temps. Voilà. Et ça me permet de passer la transition à l'UNEP, avec qui on est très heureux de travailler.
Merci beaucoup. Et merci d'avoir d'ailleurs souligné au micro de Thomas Hugues sur Public Sénat cet été. Nous nous étions retrouvés en effet en pleine canicule, le premier jour de la canicule. Et avant d'être sur ce toit de Paris, nous étions dans un parc d'une résidence d'habitat social avec un jardin assez ancien, avec des arbres qui portaient les stigmates d'une gestion qui n'avait pas toujours été exemplaire, mais en tous les cas qui ont délivré leur service d'ombrage et de rafraîchissement. Et ce site qui a évolué par sa gestion, qui est un point très important, je crois, qui vous tient à cœur, Quentin Lefaucheux. Donc Quentin Lefaucheux, vice-président de l'UNEP. L'UNEP, en quelques mots, 33 500 entreprises, 140 000 actifs qui se consacrent à la création, à l'entretien de parcs, de jardins, à la végétalisation du bâti, au génie écologique. Vous avez nos confrères adhérents qui sont là, génie écologique et génie végétal, la gestion du patrimoine arboré et les soins aux arbres, les reboiseurs aussi, un arbre sur quatre qui est planté en France et les soins qui lui sont prodigués jusqu'à son âge adulte le sont par des entreprises du paysage. J'en passe et des meilleurs, c'était pour l'instant réclame et pour planter le décor, justement ce décor, Quentin. Monsieur le directeur général a parlé d'un volet visible, d'adapter notre réponse au contexte. Évidemment, entre une mangrove et le 15e arrondissement de Paris, ici même, on ne va pas adopter les mêmes solutions que font les jardiniers paysagistes.
Merci Pierre. Avant tout, je suis très heureux d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voudrais simplement dire un mot. Je suis entrepreneur du paysage. Je dirais plutôt j'étais parce que je viens de céder mon entreprise. Et je finis un deuxième mandat donc, à l'UNEP où j'ai porté les sujets de RSE, de biodiversité. Donc ça me passionne. Et je voudrais faire un petit aparté sur la dynamique que vous soulignez, Olivier, sur le fait qu'effectivement, les choses bougent dans le bon sens. Quand j'ai commencé à l'UNEP, il y a 6 ans, on ne parlait pas beaucoup de biodiversité, on ne parlait pas beaucoup de RSE, et ça bouge et ça monte en puissance, et on est déterminé à accompagner tous nos adhérents, parce qu'on a quelquefois des adhérents qui ne sont pas sensibilisés au sujet, et c'est un point important. Alors, l'importance de la diversité dans nos aménagements, dans nos projets, c'est quelque chose dont on a conscience. Diversité dans la palette végétale et qui induit une diversité dans la palette animale, parce qu'effectivement, ce qu'on crée accueille du vivant. Et ça, c'est une chose qui est importante dans nos projets. En général, quoi, de plus en plus souvent, on attaque nos aménagements par, ou on commence nos aménagements par des diagnostics pour comprendre ce qui se passe sur un espace. Récemment, j'ai gagné des projets grâce à un très bon diagnostic flash avant d'attaquer un aménagement pour comprendre ce qui s'y passait, quelles étaient les forces en présence et s'y adapter et les protéger et aménager dans le respect de ce qui existe. Donc ça, c'est une chose que je veux souligner. Ensuite, une fois qu'on a aménagé un jardin, il y a une chose qui est très importante, c'est la façon dont on le développe, la façon dont on l'entretient. Et ça demande une parfaite compréhension de ce qui s'y passe. Donc là aussi, nous accompagnons nos adhérents, nous les formons à la compréhension de ces aspects entretien, et je dirais dans le temps, avec la difficulté souvent de la pression financière, de la remise en concurrence très rapide après quelques années, et la difficulté à travailler dans la durée sur nos projets. Pierre, tu soulignais la partie invisible de nos aménagements. Effectivement, beaucoup de choses se passent dans le sol, qu'on espère vivant. Et ça, c'est une chose qui n'est pas évidente à gérer dans nos métiers, parce que effectivement, ce qu'on ne voit pas, en général, on ne le connaît pas bien. Et on est des fanatiques de Marc-André Sellos, etc. Donc des gens qui nous aident à comprendre, à avancer sur ces sujets.
La connaissance, et puis il y a aussi des études. Je fais un petit clin d'œil à la conférence de tout à l'heure, dans quelques minutes, avec l'Observatoire des Villes Vertes. Une enquête menée auprès des responsables publics des espaces nature en ville, avec Plantes et Cités et l'Institut de la Transition Foncière. Parce que, effectivement, vous l'avez dit tous, il faut connaître avant d'agir. Et ce qui est invisible l'est parfois encore moins que la partie émergée de l'iceberg. Et en l'occurrence, on voit que les communes sont très investies. Elles n'ont pas toutes une cartographie de leur sol, mais elles investissent de plus en plus massivement dans une connaissance de leur sol, notamment pour connaître la part de sol vivant. Pourquoi ? Parce que ces sols vivants, on est content qu'ils soient vivants ou ils nous...
Eh bien, ils sont la base. Sans sol vivant, on a du mal à faire quelque chose de durable. Et effectivement, pour les maintenir vivants, il faut les comprendre. Mais quand on aime parler de triptyque à l'UNEP, donc effectivement le sol vivant, mais on n'oublie pas l'eau, donc la gestion de l'eau, et bien sûr du végétal. Donc sol, eau, végétal sont un triptyque qui est extrêmement important à comprendre. Un petit aparté, Pierre. Moi, j'aime parler services écosystémiques dans nos jardins, dans nos aménagements. Souvent, on a peu conscience de la palette des services qui sont rendus par nos aménagements. Par exemple, des services de régulation de l'eau, aussi bien dans son absorption sur les précipitations fortes, que son stockage, que sa restitution aux arbres. Donc, tous ces aspects sont vraiment des domaines qu'il faut qu'on explore encore, sur lesquels il faut qu'on avance encore. Et là, l'UNEP est vraiment là pour accompagner adhérents et aux côtés de l'OFB, des copâturages, etc.
Et alors pour l'animal, très cher Quentin, on pose des nichoirs et tout va bien ? C'est ça, c'est simplement ce qu'il faut faire ?
C'est ce qu'on évite, ou on évite de s'arrêter là en tout cas. Parce qu'effectivement, c'est un peu dommage de s'arrêter au nichoir. C'est comprendre le cycle des animaux, donc des insectes, comprendre quels sont les insectes utiles pour contrôler des prédateurs qu'on n'aime pas voir dans nos jardins, etc. Donc c'est une dynamique.
Et on peut le faire par le biais de la gestion de l'entretien, notamment avec les déchets verts qui sont en réalité une ressource. On l'a vu ensemble sur le toit de ce centre commercial dans le 15e arrondissement, avec notamment une haie qui est chère à notre président national Laurent Bizot, qu'on salue, c'est la haie de Benj, la haie sèche. Pourquoi, Quentin ? Qu'est-ce que c'est en quelques mots, parce que ça, c'est très concret.
Oui, la haie de bench, c'est une haie qui consiste à stocker donc, les rameaux, les produits de taille des arbustes, des arbres qu'on a taillés dans cet espace et qui vont abriter donc, une microfaune et une microflore donc, qui vont créer, quoi, constituer et aider à constituer un système équilibré, un écosystème au sein du jardin. Déchets verts, tu en parlais, moi j'aime pas utiliser le mot déchets, pour moi ce sont pas des déchets, ce sont des ressources, et qu'il est important d'expliquer à nos clients, à nos contacts, effectivement c'est pas un déchet, c'est quelque chose qui est riche et qu'il faut absolument conserver sur site pour en faire de l'humus. Les moutons sont plus efficaces que nous parce qu'ils en font des crottes, mais c'est, effectivement ça, c'est important.
Et dans ce sol vivant, vous avez donc ce que vous ne voyez pas, des micro-organismes. Et puis pour la rétention de l'eau, les vers de terre notamment que l'on peut voir, qui sont de formidables formateurs de trous. Et ces trous, ce vide, est essentiel pour stocker l'eau, pour qu'il y ait aussi de l'air. La vacuité dans le sol attire le vivant, comme les anfractuosités dans le bâtiment permettent à un certain nombre d'espèces de nicher. Et c'est l'idéal, effectivement, et les dispositifs d'artefacts, comme le sont les nichoirs ou d'autres hôtels à insectes, sont avant tout pédagogiques et l'aménagement et la gestion doivent nous permettre d'accueillir cet animal. Pour retomber sur nos pattes, si je puis dire, parce qu'on arrive, on a un tout petit peu de souplesse sur l'horaire, mais il va falloir qu'on libère la salle, un point important avec l'éco-pâturage, est-ce qu'il n'y a pas au fond une forme de médiation animale? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Damien, notamment sur les actions qui sont faites? Je vois un mouton, spontanément, je me sens bien. Mais vous allez un peu plus loin, vous faites des actions proactives vis-à-vis de la population.
Oui, il y a deux choses. D'abord, rien que par la présence, le mouton, il contribue à apaiser la ville. C'est-à-dire que ses troupeaux, ils changent un peu la donne. Dans une ville qui va très vite, trop vite, dans la vie de la cité un peu agitée, vous êtes tous venus ce matin, porte de Versailles, vous avez constaté à quel point la ville va vite, vous savez à quel point elle est débordante d'activité, les troupeaux ont tendance à faire ralentir un peu la vie humaine. Ils apaisent la ville et ils font aussi nettement moins de bruit que les moteurs thermiques. Et tout ça contribue effectivement à ralentir et peut-être parfois aussi à nous faire ôter les yeux des écrans qui nous obsèdent tant. Et donc du coup à observer, à regarder, à vivre ça différemment. Donc je pense que ça a une manière d'approcher la ville différemment. Et pour aller plus loin, en effet, au-delà de leur présence, ces animaux peuvent aussi prendre part à des animations, La présence des troupeaux, c'est l'occasion rêvée de faire de la pédagogie, de faire de l'animation. Je disais, on ralentit la ville. Croyez-moi, quand le berger municipal d'Evreux où les copains, les bergers marseillais qui transhument dans la ville font arrêter la circulation pour traverser la voie publique. De toute façon, la vie, elle s'arrête. On descend de la voiture, on regarde passer le troupeau et tout d'un coup, on s'arrête quelques minutes dans cette vie un peu trop rapide, un peu trop folle. On s'arrête un peu et on observe ce vivant. Donc effectivement, il y a des opérations comme ça. Les transhumances urbaines ont cet aspect pédagogique. Il va y avoir des tas d'animations. Il ne se passe pas une journée sans que les professionnels de l'éco-pâturage soient en train, en visitant leurs troupeaux, en visitant les animaux, en assurant la conduite de l'élevage, n'est pas un échange avec la population, parce que ces animaux, et ce n'est pas que les enfants, j'entends souvent, c'est formidable pour les gamins. Non. Attention, c'est formidable évidemment pour les enfants, monsieur le directeur, bien sûr, mais ça concerne toutes les générations, et j'irai même plus loin. On observe notamment dans les quartiers politiques de la ville, ça se fait beaucoup avec les bailleurs sociaux qui sont de plus en plus impliqués dans la pratique de l'éco-pâturage, qui nous sollicitent de plus en plus. Eux, ils ont remarqué quelque chose, c'est que dans les quartiers politiques de la ville, au pied des immeubles, la présence des animaux, mais c'est le cas aussi des jardins partagés, c'est le cas aussi de d'autres initiatives qui sont menées dans les quartiers, nous permettent de faire dialoguer les générations, de faire dialoguer les jeunes avec les anciens, et ça c'est quand même important, on parlait tout à l'heure de réconcilier tout ce monde et d'avancer dans le même sens, ça y contribue largement.
Moi je retiens trois choses dans ce que vous dites Damien avant de laisser le mot de la fin à monsieur Thibault. La première chose c'est que grâce à l'animal on va voir pourquoi il est là, et notamment ne pas mobiliser les moutons partout tout le temps, c'est parce qu'on va préserver une espèce, parce qu'ils vont pâturer trop fortement, on peut découvrir ainsi la flore locale et d'autres espèces. Le deuxième point qui est important, c'est que toutes ces étapes, la transhumance, la tonte, ce ne sont pas que du folklore, ce ne sont pas des événements qui sont créés avec des bêtes de foire ou de cirque, c'est véritablement la vie du troupeau que vous mettez en scène et que vous montrez aux citoyens. Mais la transhumance, elle est nécessaire, la tonte également. Et donc, vous ne singez pas une réalité, vous partez d'une réalité d'éleveur dans un contexte urbain qui est un peu un choc des cultures et qui permet de trouver un rythme peut-être plus humain, au fond, dans notre espèce. Et le troisième point qui est intéressant, et peut-être que ça vous fera réagir, monsieur le directeur, c'est le fait que les professionnels, les opérateurs sur le terrain, les éleveurs, les jardiniers sont en interaction avec la population. Et très souvent, on a voulu, un petit peu comme dans beaucoup de métiers dits de main-d'œuvre, cacher. On faisait faire le ménage la nuit avec des conséquences sociales assez dramatiques sur le rythme circadien, mais aussi sur la vie de famille, sans parler de l'accès au transport, etc. Aujourd'hui, les jardiniers, les spécialistes de l'éco-pâturage sont presque des faire-valoir. En tous les cas, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Ils sont formés de plus en plus, parce qu'ils sont parfois taciturnes, à être des médiateurs, à passer des messages et à expliquer tout simplement ce qu'ils font. Et ça, c'est très important parce que c'est une forme d'altérité. Et aider à comprendre son environnement non humain, c'est aussi le rôle de ces humains-là professionnels. Monsieur le directeur général, quelques mots pour conclure et libérer ces messieurs-dames avant la prochaine conférence.
Allez, en une minute. D'abord, moi, je note que Pierre, il utilise des formules choc hein, entre les moutons tondeuses, les animaux de foire, le folklore. Il va fort quand même. Hein. Moi, ce que je retiens, c'est quand même que nos territoires, ils sont façonnés par le vivant et il faut qu'on s'en rende compte pour tous ceux qui, parmi nous, l'ont oublié. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Quentin qui est fondamental pour moi. C'est le triptyque sol, eau, végétal. On voit quand même souvent, malheureusement, des gens qui disent « Ah, il y a des îlots de chaleur, il faut mettre des arbres » et on met des arbres dans des pots sans... Et après, on dit « C'est un scandale, on m'empêche de les arroser. » Bon, si on n'a pas compris le cycle de l'eau et le besoin d'avoir un sol vivant, on va faire des bêtises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Remettre de la nature en ville, ça impose de re-réfléchir à son cycle de l'eau. Toutes nos collectivités, elles ont tendance à dire l'eau, on la met dans des gros tuyaux, on l'envoie le plus vite possible à l'aval. C'est quand même une erreur. Et souvent, c'est une vraie erreur. Il faut qu'on réapprenne à infiltrer à la parcelle. Il faut qu'on réapprenne à stocker l'eau sous nos pieds et pas forcément dans des grandes bassines ou à l'aval. Et ça, c'est dur. Hein. Mais il faut l'avoir en tête parce que si on vraiment veut de la végétation en ville, si on veut de l'herbe, des prairies, des parcs, des arbres, il faut de l'eau. Et il faut un sol vivant. Donc ça se réfléchit dans son ensemble et pas juste j'achète des arbres à mon pépiniériste. Je le dis comme ça, mais là, on a un travail et c'est fondamental. Troisième chose, les phases transitoires, on ne l'a pas trop dit, mais c'est quelque chose de difficile aussi.
Oui.
Quand on passe d'un système à un autre, d'abord, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça s'accompagne et ça, il est hyper important que nos élus, ils sachent en parler, ils sachent partager. Parce que la nature, on a dit que ça va vite, mais il y a quand même un ou deux ans où c'est ni le modèle d'avant, ni le modèle d'après.
Oui.
Et là aussi, quand on plante des arbres, ils ne sont pas tout de suite à 30 mètres de haut, il faut leur laisser le temps de pousser, il faut prévoir le futur. Quand on prend des pisiches, on a l'impression qu'on achète une image, ben non. Ça se prépare, ça s'accompagne, ça se vit dans le temps. Il y a plein de choses et là, il faut des professionnels. Et donc, pour terminer, un partenariat avec l'UNEP, pour moi, pour l'OVV, c'est très structurant parce que ça permet d'avoir des gens, d'abord, qui comprennent ce qui se passe et comment ça va se passer derrière et qui sont des relais vers les donneurs d'ordre, les collectivités, qui, elles, comprennent qu'il faut changer mais ne savent pas forcément comment faire, qui n'ont pas forcément les clés du camion. Et là, les partenariats avec des gens qui sont capables de montrer comment on tourne la clé et comment le moteur va marcher derrière, c'est hyper important. Diagnostic flash, ça permet de résoudre plein de choses dont les donneurs d'ordre n'ont pas forcément conscience au départ. Et donc, ces partenariats, ces guides, ces procédures, ça nous permet d'avancer. Donc, pour nous, c'est structurant. Merci en tout cas pour avoir donné un temps de parole et puis
avec plaisir.
Avancer le schmilblick.
Merci beaucoup à tous les trois. On retiendra évidemment cette formule choc qui était celle d'une marque que je ne citerai pas, que les moutons sont bien plus que des tondeuses et que l'animal, qu'il soit domestique ou sauvage, visible ou invisible, nous aide avec le végétal à nous reconnecter à notre statut, à ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres vivants, dans tous les milieux, y compris dans cet écosystème parfois un peu artificiel, voire beaucoup, avec un rythme effréné. En témoigne le passage de relais avec la prochaine conférence ici même, qu'est la ville. Merci Damien Hédin, secrétaire général de la Fédération française d'éco-pâturage. Merci Quentin Lefaucheux, vice-président de l'Union nationale des entreprises du paysage. Et merci beaucoup monsieur le directeur général de l'Office français de la biodiversité, Olivier Thibault. Vous pouvez suivre l'actualité de la nature en ville et des actions des jardiniers paysagistes publics et privés grâce à l'Observatoire des villes vertes qui a été créé il y a 10 ans par l'UNEP et Hortis, H-O-R-T-I-S, qui fédère et représente les 80 000 jardiniers et paysagistes du public, aux côtés des 140 000 du privé. Même, on n'a pas le même maillot, mais nous avons la même passion, pour faire encore une formule. Et nous venons de lancer, je vous laisse un peu de temps pour flasher le code, une newsletter volontairement très courte tous les mois. Et dans la newsletter de décembre, quelque chose me dit qu'on va parler du triptyque eau, sol, végétal et expliquer de la manière la plus imagée pourquoi un arbre est à la fois un château d'eau et un climatiseur naturel. Tout ça, c'est à suivre sur les réseaux. Merci à toutes et à tous.